Je pense de plus en plus à la phrase de Lacan qui dit que l'amour est un sentiment comique.
Ah oui, on pourrait dire que nous avons l'amour pour nous consoler de la perte de l'humeur de notre enfance, où nous ignorions le comique, étions incapables d'esprit et n'avions pas besoin de l'humour pour nous sentir heureux dans la vie. Le bonheur de l'enfant est sans esprit, donc sans humour. L'humour, même comme forme de comique qui implique une tendresse à l'égard de son objet, suppose une distance à cet objet, suppose que quelque chose a été perdu, à l'égard de quoi l'humour apparaît comme une tentative d'établir une relation. Au contraire de l'ironie, le comique n'est pas méchant, il est nostalgique, comme l'amour.
Et il y a encore plus comique que les amoureux, nous, qui nous efforçons d'y comprendre quelque chose. Comme dit un philosophe américain, il n'y a rien de plus comique dans notre vie que la distance avec laquelle nous réfléchissons sur elle.
Mais pourquoi Lacan dit-il que l'amour est un sentiment comique?
Il essaie de démontrer ça dans un commentaire du mythe raconté par Aristophane dans le Banquet de Platon. Il commence par expliquer que si Platon fait figurer Aristophane, qui était un ennemi juré de Socrate parmi les personnages du banquet, c'est parce que c'était un auteur comique, et afin d'attester que l'amour, qui constitue le thème du dialogue, est un sentiment comique.
D'abord, il vous faut apprendre ce qu'était la nature de l'être humain et ce qui lui est arrivé. Autant jadis, notre nature n'était pas la même qu'aujourd'hui, mais elle était d'un genre différent. La forme de chaque être humain était celle d'une boule, avec un dos et des flancs arrondis. Chacun avait quatre mains, un nombre de jambes égal à celui des mains, deux visages sur un courron, avec au-dessus de ces deux visages en tout point pareils et situés à l'opposé l'un de l'autre, une tête unique pourvue de quatre oreilles. En outre, chacun avait deux sexes et tout le reste à l'avenant. Leur vigueur et leur force étaient redoutables et leur orgueil était immense. Ils s'en prirent aux dieux. Zeus et les autres divinités délibérèrent pour savoir ce qu'il fallait en faire. Et ils étaient bien embarrassés. Après s'être fatigués à réfléchir, Zeus déclara: Il me semble que je tiens un moyen pour que, tout à la fois, les êtres humains continuent d'exister et que, devenus plus faibles, ils mettent un terme à leur conduite déplorable. Je vais sur le champ les couper chacun en deux. Quand il avait coupé un être humain, il demandait à Apollon de lui retourner du côté de la coupure, le visage et la moitié du cou, pour que, ayant cette coupure sous les yeux, cet être humain devînt plus modeste. Quand donc l'être humain primitif eut été dédoublé par cette coupure, chaque morceau, regrettant sa moitié, tentait de s'unir de nouveau à elle. Et, passant leurs bras autour l'un de l'autre, ils s'enlaçaient mutuellement, parce qu'ils désiraient se confondre en un même être, et ils finissaient par mourir de faim et de l'inaction causée par leur refus de ne rien faire l'un sans l'autre. Ainsi l'espèce s'éteignait. Mais, pris de pitié, Zeus s'avise d'un autre expédient. Il transporte les organes sexuels sur le devant du corps de ces êtres humains. Jusqu'alors, en effet, ils avaient ces organes sur la face extérieure de leur corps. Aussi, ce n'est pas en s'unissant les uns les autres qu'ils s'engendraient et se reproduisaient, mais, à la façon des cigales, en surgissant de la terre. Il transporta donc leurs organes sexuels à la place où nous les voyons, sur le devant, et ce faisant, il rendit possible un engendrement mutuel, l'organe mâle pouvant pénétrer dans l'organe femelle. Le but de Zeus était le suivant. Si, dans l'accouplement, un homme rencontrait une femme, il y aurait génération et l'espèce se perpétuerait. En revanche, si un homme tombait sur un homme, les deux êtres trouveraient de toute façon la satiété dans leur rapport, ils se calmeraient, ils se tourneraient vers l'action et ils se préoccuperaient d'autre chose dans l'existence. C'est donc d'une époque aussi lointaine que date l'implantation dans les êtres humains de cet amour, celui qui rassemble les parties de notre antique nature. Celui qui de deux êtres tente de n'en faire qu'un seul, pour ainsi guérir la nature humaine.
Ces êtres, séparés en deux comme des émiroirs, vont, en un temps X que l'on ne nous précise pas puisque c'est un temps mythique, mourir dans une vaine étreinte à se rejoindre. Comment la question va-t-elle se résoudre? On va leur dévisser le génitoire qu'ils ont à la mauvaise place, parce que c'est à la place où c'était quand ils étaient ronds, à l'extérieur, et on va le leur revisser sur le ventre. C'est unique et stupéfiant sous la plume de Platon. La possibilité de l'apaisement amoureux se trouve référée à quelque chose qui a incontestablement rapport, pour être minimum, avec une opération sur le sujet des génitoires. Que nous le mettions ou non sous la rubrique du complexe de castration, il est clair que le détour du texte insiste sur le passage des génitoires à la face antérieure. Cela ne veut pas simplement dire que l'organe génital vient là, comme possibilité de copule et comme jonction avec l'objet aimé, mais que littéralement, il vient avec cet objet dans un rapport en surimpression, presque de surimposition. C'est le seul point où se trahit, se traduit, la fonction de l'organe génital. Comment ne pas être frappé du fait que là, pour la première fois, pour la fois unique, dans un discours concernant une affaire grave, celle de l'amour, il fait entrer en jeu l'organe génital comme tel. Ce fait confirme ce que je vous ai dit être l'essentiel du ressort du comique, qui est toujours, en son fond, référence au phallus.
Le comique de l'amour aurait donc à voir avec la manière dont il a nécessairement affaire au phallique, et dont, pourtant, toute cette question sexuelle lui est comme plaquée du dehors. Toute la comédie de l'amour tient à la manière dont le sexe s'y invite en étranger familier. C'est pourquoi tout amour vise au tragique. Car seul un sentiment comique, fatalement comique, peut aspirer à la tragédie comme une issue par rapport à cette destinée comique à laquelle il est voué. C'est toujours au moins pour lui une fin plus belle, qui ressemble à un accomplissement.
Que l'on en fasse un sujet de comédie ou de tragédie, l'expérience de l'amour semble de toute façon condamnée à périr de ses trop nombreuses contradictions. S'abandonner à une pente commune et cultiver ses propres pentes. Vivre dans le feu de la passion et vivre dans la durée. Concilier la ponctualité de l'attraction avec son caractère répétable, la profondeur du lien avec la multiplicité des objets qui suscitent une attraction.
Si l'amour romanesque triomphe d'une quantité d'obstacles, il en est un contre lequel il se brisera presque toujours. C'est la durée.
Être attiré par peut être un état qui dure, au moins un certain temps. Une question incontournable est de savoir ce que peut signifier s'aimer au-delà de ce premier état de l'amour. Comment continuer ? Le difficile qui s'introduit invariablement dans les relations amoureuses touche à cette question.
Phénomène très rare, il est vrai, dans la vie humaine, l'amour, en raison de sa passion, détruit l'entre-deux qui nous rapproche et nous sépare d'autrui. Tant que dure son enchantement, le seul entre-deux qui puisse s'insérer entre deux amants est l'enfant, produit de l'amour. L'enfant, cet entre-deux auquel les amants sont maintenant reliés et qu'ils ont en commun, représente le monde par le fait qu'il les sépare aussi. Cela indique qu'ils vont insérer un monde nouveau dans le monde existant. En passant par l'enfant, dirait-on, les amants rentrent dans le monde d'où leur amour les a chassés. Mais cette nouvelle appartenance au monde, résultat possible et seul dénouement heureux d'une liaison, est en un sens la fin de l'amour, qui doit ou bien ressaisir les amants, ou bien se transformer en un lien différent.
Il y aurait donc une première phase, celle de l'être amoureux, phase d'enchantement, en tant que telle passagère. Si rien d'autre ne met fin à ce premier état, l'enfant y pourvoit en général. Mais bien d'autres choses peuvent s'interposer, qui ont à voir avec la fin du mirage qui, par sa force, absente la réalité de l'autre. Après quoi, la seule issue laissée aux amants est une réinvention de l'amour, sa transformation en un lien différent.
L'enfant. Je crois que cette manière de le voir comme un entre-deux pour les amants est une erreur, ou plutôt une illusion, qui découle d'ailleurs sans doute du fait de vivre l'amour comme un enchantement que l'enfant ne peut que rompre. Mais cette manière de voir permet peut-être de se protéger d'une perception encore plus troublante, qui est qu'au fond, l'arrivée d'un enfant est pour les êtres qui en ont été les vecteurs un événement lointain, ni séparateur ni unificateur. Toujours en un sens comme sans rapport avec eux. Malgré le sérieux et la loyauté avec lesquels les parents partagent entre deux la responsabilité de leur progéniture, ils sont écrasés par le poids de cet événement qui participe de notre personne physique et morale, au plus profond, au plus secret de nous, et qui est en même temps cette réalité très lointaine, soustraite à toute influence, qui invisiblement se rapproche de nous. Il n'est sur terre aucune Marie qui ne devait être que la femme d'un Joseph, sans être en même temps le lieu d'une conception virginale, elle que l'ultime énigme de toute existence choisit comme réceptacle.
Étrange aussi de nommer l'enfant un produit de l'amour. L'amour serait-il un travail qui donne naissance à des produits ?
Il y a sans doute un travail de l'amour, mais pas de sorte que l'enfant en serait le produit. Non, plutôt un travail dont l'amour lui-même serait le seul produit. Un travail dont l'amour serait à la fois le processus et la fin. Une tâche infinie, la tâche d'aimer.
Qui consisterait en quoi, au juste ?
Je ne sais pas. En une constante et lente invention. Et en une veille, une attention.
Tu pourrais faire attention ?
Ça y est, ça recommence.
Tu pourrais faire attention.
Mais si un enchantement peut naître, pourquoi doit-il mourir ? De quoi ça meurt, au juste, un enchantement ?
Peut-être que ça ne meurt jamais de rien d'autre que de malentendus. Qui peut dire combien de couples se sont tués à coups de malentendus ? Les exemples ne manquent pas. Ce qui manque, c'est plutôt une analyse de structure. Celle qu'imagina le philosophe Étienne Souriau en 1938, à partir d'un exemple fictionnel, me touche beaucoup.
Histoire d'Henri et Nora. Henri est un homme remarquable, déjà connu comme économiste, et ayant, dans la coulisse des choses politiques, pris une position d'une certaine importance. Il accueille, avec une indignation mêlée d'un vague désarroi, la froide notification faite par sa femme d'une volonté de séparation. Il a peur, et puis il est profondément vexé dans son amour-propre. L'une des supériorités dont il se targue le plus volontiers, c'est de savoir manier les hommes. Ce dont Henri est fier, c'est de savoir prévoir à peu près exactement comment agiront dans une circonstance donnée les hommes, et d'être habile à les amener vers le comportement favorable à ses intérêts. Quant au motif, quant à la composition de ceux-ci dans un tableau d'ensemble, où lui-même est représenté de telle ou telle manière, il s'en moque absolument dans la façon dont il estime ses succès. Non par cynisme, pas du tout, mais cela ne l'intéresse pas, lui paraît sans importance, il ne se le représente pas. Nora, évidemment, se trompe complètement lorsqu'elle suppose à Henri des intentions malveillantes, une volonté de détruire en elle quoi que ce soit de positif. Rien de tout cela, il ne l'a fait exprès. Il n'a même pas pu concevoir qu'il le faisait. De bonne foi, il a seulement voulu amener Nora à ne plus agir comme elle le faisait en telle ou telle circonstance, à agir au contraire de telle manière en telle autre conjoncture, sans se préoccuper de savoir comment l'action imposée ou entravée se composait avec tout un ensemble. Avec tout cela, il a le sentiment de ses devoirs. Mais même maintenant, il ne comprend pas. Il ne comprendra jamais. Et tout en continuant mon rôle absurde de témoin pour certains arrangements pratiques qu'ils débattent en fonction du départ de Nora, je sens se lever en moi un souvenir lointain, lointain. Je pense à un petit enfant qui avait disposé soigneusement, longuement, divers objets, grands et petits, d'une façon qu'il pensait très jolie et ornementale, sur la table de sa mère, pour faire très plaisir à celle-ci. La mère vient, tranquille, distraite, elle prend un de ces objets dont elle a besoin. On remet un autre à sa place ordinaire, défait tout. Et quand les explications désespérées qui suivent les sanglots refoulés de l'enfant lui révèlent l'étendue de sa méprise, elle s'écrie désolée. « Ah, mon pauvre petit, je n'avais pas vu que c'était quelque chose. » Supprimez les explications, admettez que l'enfant reste persuadé que la mère a agi exprès, la mère, que l'enfant pleure stupidement pour rien, mesurer les malentendus, la façon dont il se développe et s'aggrave dans l'incompréhension, agrandissez tout cela à l'échelle de 10 ans de la vie d'un homme et d'une femme, et vous aurez l'histoire de Nora. Il n'y a plus rien à faire.
Je n'avais pas vu qu'il y avait là quelque chose. Il y avait là quelque chose et tu l'as ruiné sciemment. Si c'est là la structure du malentendu, le malentendu est comme la version malheureuse, inversée, de l'entre-capture sur la base de laquelle s'édifient les couples et qui les fait fonctionner. Tant que dure l'enchantement du mirage.
De quelle entre-capture parles-tu ?
de celle qui donne au désir sa structure, cette structure qui fait que jamais les désirs des amoureux ne s'accordent simplement, symétriquement. Parce qu'il n'y a pas de correspondance symétrique des désirs. Il y en a une compliquée, tordue, qui se produit par une capture de l'un dans la stratégie de l'autre, et vice-versa. On peut le dire en termes de dialectique désir-jouissance. La position masculine se définirait d'adresser son désir à un être imaginaire, de sorte que la jouissance vers laquelle tend ce désir ne peut être que castratrice. La position féminine se définirait quant à elle de passer par une identification au phallus imaginaire de l'homme pour atteindre une jouissance pas toute phallique via le phallus réel de celui-ci. Lacan donne l'exemple de la phrase « Tu es celle qui me suivra » A sans S, où on passe de la deuxième à la troisième personne du singulier, mettant en évidence comment l'élection fait fi de l'altérité réelle de l'autre. Comment le désir de la position masculine s'adresse imaginairement à la femme qui n'existe pas et s'écrase un jour ou l'autre sur la manifestation d'altérité de cette femme-là.
Cette femme-là dont la jouissance, en tant qu'elle ne se réduit pas toute à la jouissance phallique, passerait par d'autres voies que celles qui l'invitent à être le phallus imaginaire de l'homme, ce à quoi sert la mascarade féminine, maquillage et compagnie, pour avoir son phallus réel. L'histoire de la jeune loup et de son pasteur offre un bel exemple d'entrecapture. À celui qui lui adresse en quelque sorte le « tu es celle qui me suivra » sans S, elle répond, tant qu'il ne la demande pas en mariage, « tu es mon maître et ainsi tu seras mon instrument, celui que je suivrai parce qu'il sert si bien mon propre désir d'émancipation intellectuelle. »
Au fond, quoi d'étonnant si un enchantement, c'est-à-dire quelque chose qui a au départ une forme si tordue, finisse mal, comment s'étonner qu'une entrecapture s'écrase en malentendu ? D'ailleurs, le mot même d'enchantement appelle le réveil du désenchantement.
Il faudrait donner d'autres mots à l'expérience amoureuse.
Tout comme l'élan spirituel qui pousse des personnes amoureuses l'une vers l'autre provient d'un élan charnel, sans doute n'est-il pas rare que la lassitude spirituelle dans le mariage provienne de la lassitude charnelle.
L'amour, comme une cascade, naît que dans la mesure où il est saisi dans un mouvement de chute.
Il arrive souvent que ce soit une trop grande proximité qui rende les êtres étrangers l'un à l'autre.
C'est un signe de grande sympathie lorsque les événements habituels et quotidiens que nous vivons avec quelqu'un nous paraissent toujours nouveaux.
On ne possède jamais quelqu'un. On le gagne et on le perd à chaque instant.